Nous, notre rôle à nous, c'est de faire de véritables éco-citoyens. On donne à chaque enfant sa propre plantule qu'il plante. On leur apprend pourquoi planter, on plante pourquoi on doit préserver l'arbre.
CO2, mon amour.
Le temps d'un week-end, on s'installe dans une école qui devient salle de consultation gratuite. Et moi, on manque trois petites salles à côté où, en fait, j'essaye d'aller auprès des enfants et de leur dire qu'il y a absolument des mauvais gestes qui sont pratiqués.
Denis Chessou.
Pour nous, c'est un modèle de donner l'exemple qu'on peut agir pour l'environnement. C'est très important.
Eh bien, ces femmes, vous les entendrez tout à l'heure. Elles viennent de Tunisie, du Maroc, d'Algérie, de Madagascar. Nous irons aussi en Bolivie. Nous irons aussi sur le glacier blanc dans les Hautes-Alpes. Bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous accueillir dans ce magazine de nature et d'environnement. Avec aujourd'hui à la console Enzo Labori, Gilles Gaillard et assisté de Claire Destacan. Xavier Pestugia réalise l'émission. Je n'oublie pas Jean-François Souville. Alors évidemment, sortir, vivre, remplir les salles, que le seul son du canon soit celui des bistrots, comme pour fêter l'arrivée du beau joli vivre nouveau, bah bien sûr. Quelle autre réponse que la compassion pour les morts, les blessés, les orphelins, les familles et une ode à la vie, même en mode sidération. Bon, et la COP dans tout ça, on en fait quoi? Ah, la COP d'Europe du foot? Non, c'est pas exactement ça. Même si on joue au pied, c'est vrai, en shootant dans la terre, et puis qu'à force, elle aime pas trop. Bon, donc la COP, cette occasion normalement de repenser notre vie en commun, de redéfinir le progrès, de balancer le toujours plus, le gaspillage à la poubelle, et de recycler cela avec un peu d'équité. On la met complètement sous le tapis de notre émotion collective, la COP. Alors, heureusement, les actions n'attendent pas la COP, surtout au niveau des villes et puis de beaucoup de gens, beaucoup d'entre vous, malgré tout. L'enjeu écologique a beau avoir l'habitude de passer au troisième plan, d'être écrasé par un aéroport, une rasade de pesticides et tout ce qui est bon pour la croissance. Comment, en ces temps de réalité guerrière, redonner un peu de lumière sur ces affaires? C'est pas très simple. Parce que c'est vrai que lorsque l'on est à Tuvalu, au Bangladesh ou ailleurs, bah vous le voyez, ce réchauffement, vous le comprenez. Il y a des conséquences directes sur votre quotidien. Chez nous, évidemment, en pays tempéré, même si les catas de moins en moins naturelles sont plus violentes, eh bah on a encore entendu des gens qui vous disaient « Ah mais c'était formidable ce mois de novembre, on était en short, c'était un délice, absolument !» Les dérégleurs de climat que nous sommes tous agissons sur des temps longs, à distance, décalés. Donc on ne le voit pas. Et le philosophe écologiste Dominique Bourg, dans Le Monde d'hier, interrogé par Catherine Vincent, nous le rappelle nettement. Le président Hollande a évoqué la COP comme un moment d'espérance et de solidarité, mais interdire la grande manifestation du 29 novembre, pour laquelle les gens se préparent depuis des mois, évidemment se comprend vu les événements, mais c'est pas du tout un bon signe. Tout cela pour se prémunir de fous sanguinaires qui mourront de faim dans cette région du monde dans 30 ans si on ne lutte pas contre le réchauffement. Sans la pression de la société civile, on n'avance jamais sur ces sujets. Alors avant de passer au merveilleux transhumanisme, vous savez, derrière, alors là, c'est la dernière vision radicale de l'ultralibéralisme, le transhumanisme. Ça consiste à dire l'environnement, on s'en tape, on va tout artificialiser et devenir éternel. C'est merveilleux, vous voyez, des dingues, on en a partout. On va donc poser nos valises surchauffées, avancer avec la nature et ce que les lois de la physique nous imposent, arrêter d'être les rois de l'accumulation, car en fait, ce qu'on accumule avant tout, ce sont les gaz à effet de serre. Et donc, avant que la COP soit pleine, eh bien, les associations vont tenter de trouver autre chose pour qu'elle ne soit pas qu'une affaire onusienne d'experts, de technocrates, de négociateurs, d'industriels plus verts que verts. Et nous, nous on va réinventer parce que c'est aussi notre boulot d'être humain. Alors une COP réussie, ça ne doit pas être seulement une COP où il n'y aura pas eu d'attentat. Alors au menu international de cette émission, je vous le disais, on va partir dans différents pays du Maghreb, on va partir en Bolivie, nous partirons à Madagascar. Nous irons donc aussi sur ce glacier blanc des Hautes-Alpes qui pleure toutes ses larmes, le pauvre. Et puis pour faire le lien avec tout ça et avec un peu d'actualité, cher Frédéric Denré, bonjour à vous.
Bonjour Denis Gessou.
Alors Frédéric, peut-être effectivement revenir sur justement, c'est quoi du Moyen-Orient qui chauffe aussi là de plus en plus
Mon cher Denis, à Bandar Machar, près du golfe Persique en Iran, le 31 31 juillet 2015, il a fait 74 degrés. Ah oui. C'est un peu chaud pour un 31 juillet iranien, car habituellement, il ne fait que 45 degrés. Cela dit, c'est toujours plus frais que les 81 degrés Celsius. Je ne suis pas en Fahrenheit. Un Celsius atteint à Dahran le 8 juillet 2003. Ah. Est-ce que c'est significatif? Oui, une publie de Nature récemment montrait que d'ici 2100, c'est tout simple. Les pays de la péninsule arabique, du Moyen-Orient en général, atteindraient des températures non seulement impropres à l'agriculture, mais impropres tout simplement la physiologie humaine. On estime que trop longtemps, à 35 degrés, on commence sérieusement à avoir chaud. Et là, on y est d'après cette publication. Le Moyen-Orient sera considéré comme invivable à la fin du siècle. Alors, si c'est l'Arabie Saoudite, franchement, moi, ça m'est un peu égal. Mais quand même, 35 degrés au minimum. Voilà, ils se sont basés sur 35 degrés. Il fera au minimum 50, 60 degrés à la fin du siècle. C'est pas tenable.
Donc même si nous on vit dans un pays tempéré, on sait très bien quand on parle de réfugiés, alors il n'y a pas que le réfugié climatique, il n'y a pas que ça, on est bien d'accord.
Là ils seront là, sous 50-60 degrés, les gens qui habitent là bien obligés d'aller ailleurs, c'est une évidence.
Voilà, en zone subsaharienne aussi, enfin, d'autres coins, puis même aussi les pôles, alors, évidemment un peu moins habité, mais je veux dire que ça fond aussi une vitesse folle.
Mais globalement là où les effets du climat sont les plus visibles, ce sont les régions qui sont déjà les plus sèches. C'est toute la bande sahélienne, en fait c'est de la bande sahélienne jusqu'au nord de l'Afrique australe en Afrique. Et puis, ce sont toutes les zones déjà un peu trop humides. Donc, en gros, c'est toute la péninsule. C'est tout le subcontinent indien, donc l'Inde, le Pakistan et toute la bordure ouest du sud-est asiatique, plus les Philippines. Voilà les zones qui sont déjà touchées, qui seront encore plus touchées. Donc, là où il fait sec, il fera encore plus sec. Là où il y a beaucoup de cyclones, en gros, il y aura encore plus de cyclones. Mais le focus, il est bien sûr l'Afrique sahélienne, sur le Soudan, le bassin du Congo, le lac Tchad par exemple, et puis le Moyen-Orient où il va faire très 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 chaud et de plus en plus sec.
Et là évidemment c'est un véritable conflit autour du lac Tchad, donc avec différents pays qui sont là, et ça se réduit comme une peau de chagrin. Vous rajoutez aussi donc des conflits entre les pasteurs donc et les autres personnes, les différentes religions également. Et là vous avez un cocktail qui est donc tout à fait explosif. Alors nous allons donc avoir aussi des femmes dans cette émission qui vont nous apporter des réalités et puis aussi donc des solutions. Comment on fait donc pour eux? Allez, on va dire essayer de s'adapter, parce que l'atténuation, on va y croire un tout petit peu, pas beaucoup, mais l'adaptation peut-être davantage. Donc cette émission va nous permettre de franchir les fuseaux horaires. Et puis ce qu'on aime bien aussi, c'est la musique. On en a besoin, et peut-être encore plus maintenant, avec Camille et Yael Naïm.
Time's strange, but I remain awake up by night. mes amis est blessé. Je vous l'ai amené, il est dans la salle de soins.
C'est quoi comme race?
C'est pas un chien, monsieur Martin, c'est...
Puis il va me chier partout encore, puis j'ai plus de femme de ménage.
Mais non, il est très propre.
CO2, mon amour.
Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un ami. Il est blessé à la cuisse, il a perdu beaucoup de sang.
Je suis pas médecin, Georges, moi.
Vous pouvez extraire une balle et faire un pansement.
Il a avalé la baballe. Il a avalé la baballe en jouant.
Oh là là, c'est chaud tout ça. C'est très chaud.
Mais
hein.
Qu'est-ce que c'est encore que ces conneries?
Faudrait mieux le piquer.
Denis Chessou.
Non, on pique pas les bêtes, nous, c'est comme ça. C'est au de mon amour, donc France Inter, avec vous, cher Frédéric Danhé. Justement, ce qui est très chaud, c'est peut-être pas la baballe, mais c'est notre merveilleux automne, une fois de plus, on va dire. Ah, ben voilà, le mois d'octobre a été le plus chaud de tous les mois que nous avons connus en référence depuis que la météo existe. Ça vient d'où, cette affaire?
Eh ben, ça vient d'où, effectivement. On a l'automne le plus chaud depuis qu'on mesure des températures. On aura sans doute l'année 2015 la plus chaude depuis qu'on mesure des températures. Ça vient d'El Niño. El Niño, c'est en gros, l'eau chaude équatoriale sur le Pacifique équatorial qui est coincée à l'est vers le Pérou. Ça augmente globalement la température du globe. Donc on a un Niño qui est particulièrement fort, donc particulièrement chaud. Et ce qu'on constate, c'est que les Niños sont de plus en plus chauds, Niño après Niño, mais que le phénomène inverse, où cette langue d'eau chaude se carapate vers l'Indonésie, les Niños qui sont plutôt frais, qui rafraîchissent plutôt la température moyenne du globe, eh bien les Niños d'aujourd'hui sont plus chauds que les Niños d'avant. Donc on est vraiment sur un phénomène lourd. C'est juste un constat, c'est pas plus dramatique que ça, c'est comme ça. Voilà, on est sur du chaud.
Bien, et alors on est aussi sur l'océan Indien, on va partir à Madagascar. Madagascar, 587 000 km², près de 23 millions d'habitants, et dans ces 23 millions d'habitants, 50% ont moins de 20 ans. Katia Karotobe est la responsable de l'ONG internationale CARE à Madagascar. Donc CARE est un des grands réseaux d'aide humanitaire au monde, donc apolitique et non confessionnel. Ils sont présents dans 90 pays, dont évidemment Madagascar. Et là, bah écoutez, on va voir avec vous ce qui se passe. Bonjour Katia.
Bonjour Denis. Actuellement, je suis dans le sud de Madagascar, à Fort Dauphin, qui est vraiment au sud de l'île. Je m'occupe de la communication pour CARE et je suis en déplacement pour voir vraiment nos projets, de visiter nos programmes d'appui aux femmes sur l'amélioration de leurs conditions de vie des femmes. Ça a été principalement de rencontrer les femmes qui bénéficient des projets d'appui microcrédit. En fait, comme à Madagascar, 22% des familles à Madagascar, des familles rurales, sont dirigées par les femmes. Donc ce sont des femmes mères, soit célibataires ou divorcées ou des femmes veuves.
Alors Katia Rakotobe, parlez-nous quand même de cette île, je le disais, donc c'est un peu plus grand que la France, avec évidemment beaucoup de contrastes. Population donc extrêmement jeune, hein, 50% de la population a moins de 20 ans aujourd'hui. Comment se traduit le changement climatique à Madagascar? On sait que vous avez des cyclones qui sont extrêmement importants, mais qu'est-ce que l'on voit aujourd'hui réellement?
À Madagascar, comme c'est une île, nous avons principalement des cyclones, des inondations. Mais aussi dans la partie sud de l'île, nous avons des sécheresses, des cyclones les plus violents sont plus fréquents alors. Mmh. Il y a une hausse de température moyenne de 0,5 degrés en 20 ans, 0,1 degré par an pour les prochaines années. Donc pour les familles dans les zones rurales, il y a les pluies au moment parfois où on s'y attend le moins. Et il n'y a pas suffisamment de pluie au moment où on s'y attend, on doit attendre de la pluie. Donc à un moment donné, ça bouleverse les activités des ménages, puisque le calendrier culturel n'est plus contrôlable. Et donc au moment de semer, on ne sait pas si on aura suffisamment de pluie. Et ça donne de l'impact sur les récoltes des ménages.
Alors variabilité donc des précipitations, nombre de cyclones qui ont augmenté. On a aussi l'élévation du niveau de la mer. Donc derrière tout ça, ce que vous nous dites, c'est que ces événements menacent la sécurité alimentaire, mais aussi l'approvisionnement, on va dire, en eau, et puis les systèmes de santé publique. Comment on tente de s'adapter dans un pays quand même qui est très pauvre?
Dans un pays comme Madagascar, il y a des initiatives qui sont organisées, qui sont effectuées par les communautés, principalement comme vous avez parlé de la sécurité alimentaire. Toutes les initiatives autour de l'agriculture est toujours renforcée en matière de sélection, à l'exemple des semences de riz à cycle court, puisque à Madagascar, on cultive beaucoup du riz, et l'utilisation des semences de riz à cycle plus court. Si les semences traditionnelles mettent 6 mois à être récoltée, la promotion de semences de riz de 120 jours est mieux appropriée maintenant puisqu'on peut semer au moment où on a de la pluie et récolter bien avant la saison cyclonique. Donc ça, c'est une alternative possible en matière d'agriculture, mais aussi la diversification de la nourriture. Si on parle de la sécurité alimentaire, on ne se limite pas uniquement sur la riziculture, mais aussi promouvoir d'autres spéculations qui pourraient être adaptées, comme les plantes à tubercules, à l'exemple des ignames, qui sont cultivées sous la terre. Ces plantes-là peuvent être sécurisées même s'il y a de vents violents lors des cyclones. Les tubercules sont toujours en sécurité sous la terre.
Dans un pays qui a été énormément déforesté, on le sait, on l'a vu aussi donc avec cet animal emblématique qui est le lémurien, est-ce qu'aujourd'hui on replante aussi, parce que là il y a aussi évidemment une lutte contre le climat avec la reforestation?
Une des pratiques qui se fait est de planter des arbres tout au long de la zone côtière, ou restaurer aussi les zones de mangroves, de façon à ce que cela protège les rives et protège également les maisons qui sont construites en matériaux locaux, des bois, des feuilles ou des bambous. Cela protège non seulement le bord, mais aussi les maisons qui sont toujours les premiers à être dévastés par les vents.
Et alors, quel est le travail des femmes? Quelle est la part des femmes d'un point de vue écologique et pour lutter contre ces changements climatiques?
Les femmes sont des chefs de famille, donc ce sont des divorcées, des personnes veuves et ont des familles, des enfants à charge. Donc les femmes, on leur fournit des ressources, elles peuvent donc déjà renforcer sa famille, mais aussi facilement répondre auprès de ses pères pour divulguer les informations, sensibiliser, mais aussi porter la voix des femmes lors des prises de décision au niveau de la communauté. Donc le travail sur les droits humains et l'égalité des sexes est aussi important pour un pays comme Madagascar.
Madagascar est souvent à la merci des intempéries. Près du quart de la population, soit environ 5 millions de personnes, vivent dans des régions à risque. Et chaque année, on dénombre de nombreux sinistres causant d'énormes dégâts matériels et humains. Si une partie du pays fait régulièrement face aux inondations, le sud de l'île est confronté souvent à la sécheresse.
Katia Rakotobé, qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui? Vous faites partie de ces pays du Sud, en fait, qui est touché de plein fouet par le réchauffement climatique. Réchauffement qui vient principalement donc des pays occidentaux qui se sont développés avec des énergies fossiles. Qu'attendez-vous aujourd'hui, on va dire, comme aide? Qu'est-ce qui vous manque de manière forte?
Principalement, d'abord, les actions d'atténuation du changement climatique ou l'adaptation à ces conditions-là, ce sont les prioritaires pour que nous puissions sécuriser les familles. Mais donc, cela induit à un besoin encore plus de financement qui sont vraiment destinés aux causes de l'adaptation et d'atténuation au changement climatique.
Que représente la population agricole chez vous par rapport à l'ensemble de la population? C'est donc une majorité de gens qui sont agriculteurs ou pêcheurs?
En effet, plus de 86% de la population pauvre vit dans les zones rurales et principalement de l'agriculture, l'élevage et la pêche, surtout dans les zones côtières.
Est-ce que ce changement climatique est quelque chose qui peut souder une population? Ou bien on est évidemment en train de se demander toujours ce que sera demain et d'essayer de colmater, on va dire, les urgences?
Votre question à propos de souder une communauté, il y a vraiment des cas réels maintenant à Madagascar, dans la partie nord-est, où Pierre Madagascar travaille sur la restauration des bassins versants, où les populations en zone basse, qui ont des rivières, qui souvent, lorsque il n'y a plus suffisamment d'arbres sur en amont, il y a l'ensablement donc des rivières qui sont dans la partie basse. Et donc, il y a vraiment une solidarité entre les populations. Il y avait une négociation entre les familles qui ont les rivières toujours ensablées et les familles qui sont en hauteur, qui ont leur activité sur les collines. Les familles du bassin versant contribue au reboisement du bassin versant de toute la colline, de façon à ce que à la fois les familles sur la colline ont des supports de toute la communauté, mais aussi bénéficient donc du reboisement. Mais après, ultérieurement, les familles dans les zones où il y a les rizières peuvent avoir leur rizière assez sécurisée et il y a moins d'ensablement lorsqu'il y a, des arbres en colline. Et donc, en effet, cela pourrait être quelque chose qui unifie les communautés, mais les négociations donc, se font toujours entre les communautés petit à petit.
Katia Rakotobe, donc de l'ONG CARE à Madagascar, pardonnez-nous pour le son, n'a pas fait mieux donc, parce qu'il voilà, y a une fenêtre de tir et ce n'était pas très simple. Frédéric Noé, donc réaction par rapport à ce qui s'est dit, parce que là on retrouve des éléments forts. Quoi.
On retrouve des éléments forts qu'on retrouve souvent et c'est un double changement culturel, on l'entend bien. Un, c'est... Quand elle nous dit modifier les pratiques agricoles, réintégrer la forêt, c'est un changement d'usage des sols en fait. Et les sols sont particulièrement menacés à Madagascar. Et puis derrière tout ça, c'est un changement culturel, humain, anthropologique. C'est redéfinir la place des femmes et redéfinir les liens entre les différentes communautés. C'est tous les chevaux administratifs et politiques du pays. On voit ça partout derrière le changement climatique. Il y a un changement culturel, il y a une réappropriation par le peuple, avec un grand P, de ces territoires. Et ça, on le voit dans tous les pays, y compris dans le nôtre.
Voilà. Et là, les femmes, une fois de plus, ont ce rôle important, quel que soit genre, le mode d'organisation, elles le prennent.
Tout passe par les femmes, la plupart du temps.
On va rencontrer un homme qui s'appelle Eusebio Pérez. Là, je vais vous emmener, enfin, j'ai rencontré ici, lors du festival alimentaire, Terre, Aliments et Terre, donc Comment nourrir la Terre, un très très bon festival, avec plein de sujets, on s'en doute, sur l'alimentation. Eusebio Pérez est bolivien, Amérique du Sud, donc, et agronome de profession, et directeur d'un programme d'appui aux producteurs de cacao sur les techniques agricoles. Alors là, c'est très intéressant aussi de voir comment on fait en Bolivie, lorsque l'on produit du cacao pour après faire du chocolat, comment on s'organise. Alors, il y a 50 coopératives, et soit 1300 familles qui sont donc derrière cette union qui s'appelle El Ceibo.
Bien, bueno, hablando del cambio climático, retrocediendo a las décadas de...
Au niveau de l'impact du changement climatique, si on revient sur les années 80-90, on ne sentait pas vraiment de problème par rapport au climat. Les périodes des pluies étaient normales, les plantes poussaient normalement.
Las lluvias eran todas normales, ¿no? Como cada año que pasa, ¿no?
Par contre, à partir des années 2000, et ça s'est accentué ces dernières années, on a observé un changement très brutal des températures.
Donde existe bastantes inondaciones et deslizamientos.
Et des inondations, des glissements de terrain, des rivières qui débordent.
Desborde de ríos también, ¿no? Existen. Y a la vez también.
Et notamment la présence de maladies qui se sont développées, alors sur les cacaoyers, mais aussi sur les plantations d'agrumes, les bananes.
Y este cambio climático afecta.
Et toutes ces conséquences, elles sont pour le producteur assez dramatiques parce qu'en fait, il ne vend plus, ses cultures sont détruites et ces baisses de rendement font que le producteur voilà, est en situation de ne plus avoir de produits à vendre.
Alors maintenant, que faites-vous pour vous adapter et atténuer les effets du changement climatique ?
Bien, dentro de lo que es... Al cambio climático tenemos que aceptar, ¿no?
Porque le changement climatique, on doit l'accepter. Maintenant, on doit vivre avec.
¿Cómo reducimos? Bueno, tenemos que empezar una.
Et alors, comment on essaye de réduire son impact? Alors, pour nous, ça correspond à l'installation de parcelles par rapport au système d'agroforesterie.
Es lo más importante. Y también una parte de esto tenemos que realizar.
Donc, ça veut dire planter toute une série d'arbres. Et au-delà de cette technique agricole, il y a aussi le fait de ne pas brûler les forêts, de faire attention aux sources d'eau, de faire attention aux rivières. Et c'est en prenant soin de l'environnement qu'on peut tenter de s'adapter.
Todo esto lo que ocurre en el cambio climático, bueno, esta es consecuencia, ¿no?
En Bolivie, pour nous, les conséquences du changement climatique, elles sont liées au niveau de développement des pays plus avancés.
También otra vez de que se queman grandes bosques, grandes.
Notamment leur niveau d'industrialisation, qui sont les principaux contributeurs aux émissions de gaz à effet de serre avec le gaz carbonique.
para esto afecta. Las conséquences ya están llegando.
Et on a aussi la question de la déforestation à l'échelle mondiale, toutes ces forêts qui brûlent. Ce sont ces phénomènes qui sont à la cause du réchauffement climatique et que nous, du coup, on subit avec les catastrophes naturelles, des sécheresses, des pluies. Mais c'est à l'échelle du monde.
Alors comment le fait d'être organisé en union de coopératives, on le rappelle, vous aviez 50 coopératives, 1300 familles, comment cela vous permet d'être plus fort face à ces enjeux ?
Alors l'avantage d'être en coopérative, c'est que nous sommes associés, les producteurs entre eux sont associés.
Talleres de intercambio de experiencia de productor a productor.
Nous organisons beaucoup de formations, notamment sous la forme d'ateliers d'échange d'expérience.
Que es el tema de los sistemas forestales, también instalación de parcelas.
Par exemple, l'objectif est de mieux faire connaître le système d'agroforesterie. Nous formons les enfants des producteurs pour qu'ils puissent démultiplier les apprentissages.
Y ellos también.
Car en effet, les producteurs sont âgés, ceux qui ont créé la coopérative, et donc c'est important que les enfants prennent la relève, et aujourd'hui ce sont les fils qui s'occupent des parcelles. Nous travaillons également dans le commerce équitable depuis 28 ans, donc l'objectif est de payer un prix juste pour les producteurs de cacao. Et c'est aussi la question de la stabilité dans le temps de ce système de commerce équitable.
Malgré tous ces problèmes, qu'est-ce qui lui donne encore espoir aujourd'hui ?
Bien, bueno, de todo lo que se tiene, bueno, es con lo que se trabaja con la.
Pour lui, l'espoir, c'est l'agriculture biologique et le système d'agroforesterie. Parce que c'est un système qui permet d'être durable dans le temps.
Eusebio Pérez, donc d'El Ceibo, alors qui est partenaire d'Artisans du Monde. Je tiens à le dire parce qu'Artisans du Monde est un des acteurs historiques du commerce équitable. Merci aussi à Lise Tréglose pour sa traduction qui, elle aussi, appartient à Artisans du Monde. On est dans le prolongement de ce qui se faisait déjà depuis des millénaires.
Eh bien oui, c'est contrairement à ce qu'on pense, la forêt tropicale, en particulier la forêt amazonienne, n'a jamais été une forêt totalement vierge. C'est une forêt que l'on considère comme jardinée. Le seul fait que les Indiens empruntaient pour cueillir, empruntaient les mêmes chemins pour cueillir les mêmes fruits, a entraîné une sélection des arbustes et des arbres simplement pour ce qu'on en tirait. Eh bien, le cacao, là, c'est juste la redécouverte de ce que les Indiens ont fait pendant des siècles et des siècles, c'est-à-dire le cacao ne pousse véritablement bien que sous les frondaisons des arbres les plus hauts. Donc l'agroforesterie, c'est un retour aux évidences avec les techniques, la technologie et les connaissances que l'on a aujourd'hui. Ce qu'on redécouvre en Bolivie, c'est l'évidence que l'on peut cultiver au sein même des milieux naturels et en plus, ça protège les.
On va poursuivre ce voyage qui va nous emmener dans ce haut de mon amour au Maroc, en Algérie, en Tunisie, avec trois femmes qui sont dans la transmission de l'écologie aux enfants. Voilà, j'espère que vous allez bien. Nous sommes sur France Inter et on essaye de vous envoyer aussi des bouffées assez positives tout en étant très lucides sur les constats. Aujourd'hui, il s'appelle Art Mingo, on le suit depuis très longtemps lui aussi. La mer, ouais, existe-t-elle, tiens.
La mer n'existe pas. Parfois nous la rêvons. Mais elle n'existe pas. Ce n'est qu'une intuition. La mer n'existe pas, parfois nous la croyons, mais ça n'existe pas, ce n'est qu'une illusion. Elle va sur nos croyances de l'objet. jusqu'à l'errance, comme un vaisseau sans nom. La mer n'est plus ici, la mer n'est plus là-bas. On dit qu'elle est partie, mais elle n'existe plus. Mais n'est pas du voyage entre ici et ailleurs, entre ciel et là-bas, mais on n'existe pas. Mais n'existe pas, parfois nous la rêvons. Mais ça n'existe pas, ce n'est qu'une intuition. La mer n'existe pas, parfois elle nous attire. Dans cette certitude qu'elle m'aide comme elle respire, la mer n'existe pas. La mer n'existe pas.
Certes, elle n'existe pas, mais quand même avec les océans, bah, ils absorbent 25 à 26% du gaz carbonique que nous émettons, ce qui est quand même déjà pas mal pour les mers. Femmes et environnement, là c'est très intéressant parce qu'on a donc trois femmes, Radia Louichi de Tunisie, Amira Taïba d'Algérie, et puis on va commencer par Afaf Mikou, marocaine, donc enseignante, chercheuse, fondatrice du club Sciences Citoyennes, donc qui anime des ateliers, déchets, recyclage, purification de l'eau, et donc toutes les trois, transmission de l'écologie aux enfants et qui résident donc à leur façon. Afaf Mikou.
Quand on parle Maroc, en fait, il faudrait parler de plusieurs Marocs. Il y a le Maroc des villes, le Maroc des cartes postales, le Maroc touristique. Et il y a l'autre Maroc, qui est le Maroc plus défavorisé, disons, surtout en particulier dans le milieu rural. Donc ce sont des populations qui souffrent à plusieurs niveaux, de pauvreté. Et en fait, par conséquent, leur environnement n'est pas forcément propice pour qu'ils aient une vie facile. Le temps d'un week-end, on s'installe dans une école qui devient salle de consultation gratuite. Et moi, on m'octroie une petite salle à côté où, en fait, j'essaye d'aller auprès des enfants et de leur dire qu'il y a absolument des mauvais gestes qui sont pratiqués et qu'il faudrait les changer. Alors, quand on arrive comme ça, vous savez, les enfants, même à travers le monde, les adolescents, quand on dit il faut, et ben ils font le contraire. Donc, nous, on arrive avec la preuve scientifique, avec vraiment l'observation, et ils sont donc persuadés après la manip qu'il faut changer certains gestes. Et je vous donne un exemple. Les filles, quand elles vont à la rivière ou quand elles vont puiser dans le puits qui est pas loin, eh bien en fait on leur dit il faut mettre cette petite cachet de chlore dans ce seau d'eau. Là en fait on prend cette eau là, on l'observe sous microscope, on constate effectivement qu'il y a des microbes qu'on va donc éliminer grâce à ce chlore. Et on va même au-delà en disant écoutez, il y a des choses qu'on voit au microscope et puis il y a aussi de petites choses encore plus petites qu'on ne verrait pas au microscope et qu'on ne pourrait pas traiter. Et ces choses-là, ça peut être des métaux lourds ou des choses qui contaminent vos rivières. Et là, malheureusement, même les usines, quand bien même elles seraient très bien équipées, elles ne pourraient pas traiter ce problème-là. Donc la seule façon, c'est justement de la prévention.
La pastille de chlore aussi, donc en prévention. Et puis aussi quand même la consommation du sel iodé à la place du sel que l'on peut trouver dans la montagne.
Quand on arrive dans des régions montagneuses et qu'il y a du sel en abondance, on ne peut pas arriver vers ces populations et leur dire votre sel est mauvais. Alors la seule façon, c'est encore une fois la preuve scientifique qui va mettre trois échantillons, par exemple le sel marin. Donc on va évaporer l'eau de mer, on va avoir du sel qui va être là et on va comparer ce sel avec leur sel et avec le sel commercial. Tous ces sels, bien entendu, se ressemblent, ont le même goût, mais quand vient la petite expérience scientifique qui va révéler avec une coloration de façon très ludique qu'il y a présence d'iode de façon suffisante pour leur santé uniquement dans le sel commercial, là, on arrive à les toucher. Et d'autant plus que l'enfant va rencontrer la maman le soir, après cette campagne qui a duré toute la journée, il va lui dire « Ah bon, tu as fait quoi ? Oui, moi j'ai consulté, par exemple, pour la maman va dire, pour son goitre. » Alors, il y a d'énormes problèmes de goitre dus à la carence en iode. Et du coup, le discours se crée le soir même en disant « Le seul geste pour éviter tout ça, c'est effectivement de consommer un sel qui n'est pas celui des nos montagnes, mais qui est un sel en tout cas enrichi et qu'il faudra acheter. »
Amira Taïba, êtes-vous là, s'il vous plaît, Amira?
Oui.
Alors, on va parler de l'Algérie avec vous, parce que vous êtes en fait rentrée à l'université de Constantine pour suivre une formation donc d'ingénieur d'État en écologie et en environnement. Vous avez créé, peut-être pas toute seule, mais en tout cas, une association qui s'appelle le Flambeau Vert. Alors ça nous intéresse. Concrètement, qu'est-ce que vous faites, vous aussi, sur le terrain? Et puis, peut-être nous donner quand même une situation aussi, on va dire, écologique de l'Algérie.
L'Algérie, c'est un peu comme tous les pays du Maghreb. On en est un peu loin de tout ce qui est progrès écologique, d'où l'idée de la création de notre association. Notre objectif principal, c'est la sensibilisation et l'éducation à l'environnement. Malheureusement, en Algérie, le tri sélectif, il n'est pas encore opérationnel. À Constantine, il y a quand même le nécessaire pour faire le tri. Il y a les bacs en couleur, mais malheureusement, quand le camion passe, il ramasse tout en même temps.
Ah, d'accord, c'est que le camion poubelle ne fait pas le tri, quoi. Il embarque tout sans distinction.
Voilà. Nous, notre rôle à nous, c'est de faire de véritables éco-citoyens. Ça se fait à travers des jeux et ça se fait aussi sur le terrain. Donc, on est là, on ramène les petits-enfants qui sont encadrés par les membres de l'association. Donc, on commence notre petite opération de nettoyage et du coup, il y a tous les enfants du quartier, les jeunes, les adultes qui nous rejoignent, qui sont là avec leurs petits sachets, leurs petits gants. Ils ramassent. On leur parle aussi du tri sélectif, c'est quoi et comment ça se fait.
On a parlé des déchets, maintenant parlons du reboisement. Comment ça se passe? Alors là aussi, vous replantez où et quoi?
On le fait dans deux endroits différents, soit dans la forêt. On donne à chaque enfant sa propre plantule qu'il plante. On leur apprend pourquoi planter, on plante pourquoi, pourquoi on doit préserver l'arbre, en quoi est-ce qu'il va contribuer dans cette forêt. Donc ça, c'est dans le milieu forestier, la montagne. Et aussi, on fait dans quelques plantations aussi dans les quartiers, dans plusieurs quartiers de Constantine.
Et ça marche. Et ça marche pas mal. Donc vous avez replanté combien d'arbres jusqu'à présent?
Alors, je vais dire une centaine.
Ouais, bah écoutez,
depuis 2004. Et c'est des arbres qui sont toujours en place. Depuis 2009, donc notre association, elle assure un accompagnement des jeunes diplômés en écologie et environnement, que ce soit de l'université, donc c'est des ingénieurs ou des licenciés, ou issus des instituts de la formation professionnelle, donc c'est des techniciens supérieurs, à créer justement leur propre entreprise verte. Trois qui sont opérationnelles, une sur le recyclage et deux autres entreprises, une qui s'occupe des travaux civiques en forêt et la troisième donc entre création et entretien des espaces verts dans la ville de Constantine. Donc c'est tout ce qui est autour des immeubles et sur les routes aussi.
Radia Luigi, s'il vous plaît, vous êtes là aussi
pour... Oui, ben voilà. Je suis là.
Eh ben, bonjour Radia.
Bonjour.
Vous avez représenté vous la Tunisie. Alors, peut-être d'abord, première même question, parce que vous êtes vous directrice du collège du Belvédère à Tunis. Et vous êtes aussi présidente fondatrice du réseau Enfants de la Terre, donc qui incite là aussi les gamins à préserver l'environnement. Mais état des lieux en Tunisie aussi de l'environnement. Donc tout ça, ce sont des pays quand même merveilleusement chahutés, la Tunisie peut-être un petit peu plus, enfin, ça dépend des moments, mais où en est-on? Quelle est la prise de conscience de l'écologie au sens large chez vous en Tunisie?
Pour nous, on a débuté dans une conjoncture très spéciale, tout bouillonne autour d'un climat révolutionnaire.
Eh oui. Printemps arabe en 2010 quand même.
Ah oui, d'ailleurs notre association a vu le jour septembre 2011. L'objectif principal pour nous, c'est d'apporter à ces enfants une information claire
et surtout de leur faire comprendre les enjeux environnementaux.
Radia, qu'est-ce que vous avez fait, s'il vous plaît, sur une zone humide ? Ça nous intéresse bien. Je crois que c'était au centre-ouest de Tunis. Que s'est-il passé ?
Au début, c'était l'apport social de cette zone humide. Il faut valoriser cette zone et on a travaillé en trois dimensions, le passé, le présent et le futur. Le passé, c'était une vue panoramique et les flamants roses, des milliers et des milliers de flamants roses qui hivernent. Et le présent, c'est devenu des potoirs. Et là, c'est la pollution et du moins, cette dégradation a affecté le social. C'est plein de mouches, plein d'insectes et les enfants du quartier ne pouvaient plus même être dans un milieu scolarisé très performant. Cela affectait même leur santé. On a incité la municipalité et l'État de prendre en charge cette zone humide. C'est pour le bien de la région et pour le bien de l'environnement. C'est très important pour nous, les zones humides.
Qu'est-ce qui vous anime profondément ? Vous êtes bien sûr une enseignante, mais en fait, qu'est-ce qui vous plaît ? Qu'est-ce que vous voyez évoluer au fur et à mesure ?
L'éducation. Pour nous, la cause environnementale, c'est une cause de citoyenneté, droit et devoir, mais c'est l'éducation. C'est à travers l'éducation qu'on peut vraiment évoluer.
Qu'est-ce qui vous motive profondément, vous, Afaf Mikou ?
Moi, ce qui me motive aussi, ce sont les filles. Vous savez qu'il y a un problème d'alphabétisation au Maroc, et en particulier des filles qui quittent l'école souvent trop tôt. Donc moi, ma motivation, c'est de dire qu'il y a quand même... Même on est un peu provocateur quand on est des femmes qui allons sur le terrain et on va avec cette image d'une fille qui peut réussir dans sa vie. Donc tout ça, c'est pas fortuit, c'est vraiment étudié parce qu'on veut que certaines petites filles s'identifient et dire qu'elles peuvent changer des choses autour d'elles et qu'elles peuvent continuer le collège, peut-être pourquoi pas le lycée et puis aller faire des choses pour leur entourage direct.
Pour nous, c'est un modèle, donner l'exemple qu'on peut agir pour l'environnement. C'est très important.
Eh bien, toutes les trois, Afaf, Amira et Radia, un grand merci à vous parce que donc vous avez quand même donné sacrément envie avec toutes les difficultés que l'on peut connaître dans ce bassin méditerranéen. Vous êtes des femmes d'action, vous êtes des femmes des passeuses, vous êtes des citoyennes et vous semez donc des graines d'avenir dans le cerveau de ces gamins, de tous ces petits loups. Donc un grand merci à vous et puis bravo pour votre travail. Des femmes qui résistent à leur façon et des femmes donc actives, dans ce qui est parfois dans certains pays est presque une provocation. C'est très intéressant. Maroc, Algérie, Tunisie. D'autant plus que le Maroc sera donc la COP 22, donc ce sera l'année prochaine.
Eh oui, le Maroc est un excellent élève dont on pourrait s'inspirer. C'est d'ailleurs un des premiers pays, si ce n'est le premier, qui a rendu sa copie avant la COP 21 et qui donc va accueillir la COP 22 en 2016. C'est un pays qui est très engagé, par exemple, sur les énergies renouvelables. Son plan d'énergie renouvelable vise en 2030 à s'alimenter en électricité autour de 40% auprès de centrales éoliennes et de centrales solaires. Il y en a deux. Il y a une centrale éolienne géante sur le site de Tarfaya, qui est censé pouvoir alimenter en électricité tout Marrakech. Hein, c'est 130 éoliennes, c'est un site géant, hein, c'est 17 km de long sur 6 de large. Des éoliennes géantes de 80 mètres de haut. Et puis, il y a un site en construction à Nour, près de Ouarzazate, 2500 hectares de panneaux photovoltaïques, enfin, des panneaux photovoltaïques sur 2500 hectares. Voilà, on pourrait arriver à 40% d'énergie renouvelable au Maroc d'ici 2030. Nous, en France, on en est loin. En Tunisie, c'est 22-23%. Je crois, d'ici la même période.
D'accord.
Il y a un vrai engagement.
Bon, on va poursuivre, on va parler du cycle de l'eau, on va changer un petit peu l'émission parce qu'on a des questions de temps, donc nous passerons notre merveilleux glacier blanc une autre fois et d'ici une ou deux semaines sans aucune difficulté. Ce que je vous propose, c'est d'écouter Plan B. Ben, ça tombe assez bien. So
pleading my case on the witness box. Telling the judge and the jury the same thing that I said to the cops. On the day that I got arrested, I'm innocent, I protested. She just feels rejected. Had a heart broken by someone she's obsessed with. Cause she likes the sound of my music. She makes her a fan of my music. So why love goes down, makes her lose it. Cause she can't separate the man from the music. And I'm saying all this in the stand. When my girl cries tears in the gallery, this has got bigger than I ever could have planned.
She said, love you, boy, I love you so. She said, love you, baby, oh, 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 oh. Yes, she did. She said, love you more than words can say. She said, love you, baby, hey, 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 baby. So I said, then why the hell you gotta treat me this way? You don't know what love is.
The Said, c'était Plan B sur France Inter, 01 56 40 40 35, vous en avez l'habitude. C'est le numéro sur lequel vous pouvez déposer vos messages.
Bonjour, je suis Boris Patentreger qui parle au nom d'un collectif d'ONG composé d'Envol Vert, Cœur de Forêt et Planète Amazon. Depuis quelques mois, nous sommes en train de vivre l'un des plus gros crimes écologiques et climatiques du 21e siècle. Une déforestation sans précédent en Asie du Sud-Est et notamment en Indonésie. Cette déforestation est entraînée par les feux volontaires. Ces feux entraînent des nuages toxiques sans précédent qui vont jusqu'aux Philippines et la Thaïlande, entraînant des infections respiratoires pour près de 500 000 personnes. Derrière ces feux et ces flammes se cachent des secteurs incriminés comme l'huile de palme, la pâte à papier, le caoutchouc et les minerais. Alors que ces flammes sont toujours en cours en Indonésie, nous demandons à l'ambassade indonésienne de cesser tout cet enfumage et de prendre un plan d'action zéro déforestation sans plus attendre. Un plan zéro déforestation qui s'appliquerait à l'Indonésie, mais également aux acheteurs d'huile de palme, à l'Europe et aux consommateurs.
Alors évidemment, tout ceci n'est pas gratuit, on s'en doute. Alors, feu de forêt, oui, mais c'est quand même aussi un terme qui est impropre, parce que dans le cas présent, pour l'Indonésie, vous avez des feux de tourbière qui sont beaucoup plus difficiles en fait à combattre, parce qu'il s'agit de la tourbe donc, qui brûle de l'intérieur et qui se propage sans qu'on puisse le voir. Et donc, ça s'étend sur d'immenses surfaces. Donc, c'est pas du tout un phénomène, on va dire, naturel, d'autant que le problème remonte aussi une trentaine d'années où les drainages se sont véritablement intensifiés. Ça aussi, donc, des conséquences, hein, c'est-à-dire que sur les émissions aussi mondiales, sur le CO2, on rappelle quand même que la déforestation et donc les feux qui vont avec, c'est autour de 10% quand même des émissions de gaz à effet de serre mondialement. Voilà, donc, mais c'est vrai que derrière tout ça, on a ces grandes cultures, on veut, Frédéric, donc retirer donc ces forêts pour pouvoir planter autre chose.
Ah ben, planter de l'huile de palme, mais en plus ça ne peut que ça. Souvenez-vous, 98, on a parlé d'El Niño tout à l'heure, il y a eu des incendies massifs géants en Indonésie, c'était lié à un assèchement du climat lié à El Niño. Donc les pratiques humaines, un mauvais usage des sols, plus un climat qui change et qui assèche, ça ne peut qu'accentuer le problème. On en vient là aux deux clés de voûte hein, de notre adaptation au changement climatique, c'est l'eau et c'est les sols. Les deux sont foncièrement liés, notre avenir est lié à ces deux-là.
Alors on va revenir sur le cycle de l'eau, mais tenez, puisque l'on parle d'arbres, là on va pointer le curseur sur les Hauts-de-Seine, c'est complètement différent, 01 56 40, 40 35.
Pascal Amedon dans le 92. Je t'appelle parce qu'à Meudon, ça se passe très très mal pour l'écologie et pour les arbres. Et pourtant, ici, on est à 21 km du Bourget, siège de la COP21. Depuis lundi, on a la police et les CRS contre une vingtaine de citoyens qui tentent de défendre les 34 magnifiques tilleuls centenaires en cours d'abattage par la direction régionale des affaires culturelles, la DRAC. Cela se passe sur l'avenue du Château, qui est une des plus belles avenues d'Île-de-France. L'an prochain, la deuxième tranche d'abattage sera de 112 tilleuls sur les 512 que compte normalement l'avenue. Pourquoi les coupe-t-il? Pour les remplacer par des petits arbres jeunes bien alignés. Tu imagines l'énorme perte de biodiversité et d'absorption de CO2 qui en résulte, pour ne parler que de cet aspect. En 1999, l'avenue était foisonnante. Ils ont abattu 240 tilleuls sous ce prétexte qu'ils allaient nous tomber dessus. Ils nous prennent vraiment pour des imbéciles.
Voilà, donc ça c'est le monde associatif qui bouge, hein, 01 56 40 40 35, vous le savez, ce répondeur est à votre disposition. Et j'ai sous les yeux, ah bah des fiches, alors là c'est très intéressant, je vais me tourner vers vous, donc Yvan Saint-Jour, parce que vous avez été le créateur de la maison écologique, et avec Philippe Pellan, bah, vous avez créé aux éditions Hippipip, ça j'aime bien, vous allez retrouver ça tranquillement sur le site, aux éditions Hippipip, donc on va dire, c'est pas ce jeu, mais donc 20 fiches où on peut faire soi-même les choses. Bonjour à vous.
Bonjour Denis. Oui, l'idée c'est ça, c'était de pouvoir accéder à l'autonomie dans différents domaines, que ce soit cuisine, santé, habitat, énergie, jardin, etc. Et donc, bah, comment est-ce qu'on fait? On se prend en main. Comment on se prend en main? On a fait des fiches pratiques superbement illustrées. Enfin, en tout cas, nous, on aime bien les dessins. Et l'idée, c'est avec une fiche, on peut accomplir totalement une chose. Donc,
Alors, on va prendre par exemple, je suis autonome en électricité. Bon, c'est vrai que vous remettez toutes les choses à leur place.
Alors oui, là, l'idée, c'est l'autonomie en électricité avec panneaux photovoltaïques, batteries, onduleurs, tout ce qui va bien. Et là, on a un kit de montage. On peut entièrement devenir autonome en électricité avec, si on suit bien, pas à pas, toute cette fiche.
Je construis mon four solaire aussi. Alors, l'art du compost aussi, Philippe Pellan. Alors, je vois l'art du compost et puis je vois aussi l'incroyable jardin sauvage nourricier sans effort.
C'est un jardin qui est plus qu'un jardin. Oui. Donc on reproduit un peu les écosystèmes naturels qu'on peut observer dans la nature. Donc dans le but, bon, déjà d'avoir une production importante, il faut savoir qu'il y a 100 plantes sauvages comestibles à l'intérieur. Tous les éléments végétaux que l'on peut trouver, tous les étages de végétaux qu'on peut trouver dans la nature, tels que les arbres, les arbrisseaux, les arbustes, les plantes annuelles, les plantes vivaces, tout ça est agencé de manière à ce que cet écosystème s'autorégule. Oui. Voilà.
On est en symbiose là.
On est en symbiose totale. Dans cette fiche, tout est expliqué. C'est une notice, un pas à pas, pour créer ce jardin qui va être productif, qui va être aussi un lieu où on va pouvoir... Je sais que vous aimez beaucoup la faune, et donc c'est un lieu où on a une faune énorme qu'on peut observer. C'est un lieu de détente, et bon, c'est un lieu où on peut réellement réussir à se nourrir.
Alors, l'autonomie, c'est aussi mes toilettes biométrisées sur silos sans entretien. Et alors, il y a aussi, je construis une tiny house. Qu'est-ce que c'est, une tiny house?
Tiny house, c'est une petite maison, une vraie maison, hein, c'est-à-dire avec un toit de pan qui ressemble à une maison en bois mais qui fait que 10 mètres carrés et qui est sur roue, donc qu'on peut déplacer au gré du vent.
Alors c'est pas une caravane, c'est pas un mobilhome non plus, hein, c'est pas une roulotte.
Voilà, c'est vraiment une petite maison très très cosy à l'intérieur, très agréable, très chaleureuse.
Bon, et alors faut être quand même un minimum bricoleur, mais on peut y arriver, enfin on n'a pas besoin d'être forcément menuisier, charpentier, plombier, électricien.
Non, l'idée c'est voilà, c'est de donner accès à tout le monde. Alors bien sûr, pour la tiny house il faudra peut-être faire, pour la personne qui ne sait pas du tout se servir d'un marteau et d'une scie, peut-être faire un petit stage d'un ou deux jours avant pour apprendre à utiliser un outil. Oui. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir le réaliser par soi-même. Après, c'est juste qu'une personne qui sera très bonne bricoleuse arrivera plus rapidement à la faire.
Alors, notre écosystème personnel, vous le mettez aussi en avant. Vous avez l'art du souffle, une fiche qui est signée Christophe André. Le docteur Jean-Claude Troquiner aussi, je soulage mes maux par simple pression des doigts. Ce n'est pas un truc de gourou, hein, loin de là.
Hein. Non, pas du tout. Non, là, on est vraiment dans de la fiche. Santé, bien-être, très bien faite par des pointures. Hein. Et l'idée, c'est vraiment de se reprendre en main tranquillement.
Délicieuse plante sauvage, facile à reconnaître. Ça, c'est l'ami François Couplan donc, qui a organisé ça. Qu'est-ce qui vous semble intéressant, Yvan Saint-Jour, quand même, aujourd'hui, dans cette société, dans ce virage que l'on est en train de prendre? Parce que ça fait partie, en fait, de toutes ces petites pousses qui sont en train d'émerger.
Que justement, les gens sont en train de vouloir réapprendre à faire eux-mêmes. Ils veulent réapprendre à être autonomes, réapprendre à avoir leur propre vie, tout simplement. Et à mon avis, l'autonomie, c'est un grand mot, un très vaste mot, mais je pense que ça va être un mot qui va être très, très employé ces prochaines années.
Merci Yvan Saint-Jour, c'est aux éditions Hippipip. Et chef Frédéric Danvé, on reparlera du cycle de l'eau tranquillement.
J'espère bien,
voilà, on se prendra de l'eau sur la tête un peu plus tard. À partir de 8 ans, vous avez écrit J'agis pour ma planète, c'est aux éditions Bordas. 30 jeux et activités pour tout comprendre.
Et les parents aussi.
Ça leur fera effectivement pas de mal. Merci à Claire Destacan, Xavier Pestugia, Denis Chessou, on vous souhaite un excellent week-end et on se retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine. L'Atelier du Montilou, vous le savez, ce sera à 19h54 dimanche et dans quelques instants, vous retrouverez la librairie francophone d'Emmanuel Kérad.